RCF.
Merci d'écouter RCF en ce jeudi 16 septembre, il est 14h.
RCF, tous mélomanes.
Bienvenue à vous tous dans cette émission nouvelle, tous mélomanes, avec à mes côtés aujourd'hui Jacques Nouvier. Bonjour Jacques.
Bonjour Bertrand, bonjour à tous.
Et aujourd'hui Jacques, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec ni plus ni moins que celui que l'on pourrait qualifier comme le meilleur pianiste belge du siècle, en fait. Jean-Claude Van den Heinden, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans cette émission, bienvenue sur RCF.
Je vous en prie.
Alors Jacques, aujourd'hui, pourquoi avez-vous choisi de recevoir Jean-Claude Van den Heinden ?
Eh bien, en fait, il y a longtemps, il y a au moins 2 ans que je souhaite cette rencontre. On s'est vu pour la première fois à Beaune. On avait beaucoup discuté et j'ai eu vraiment envie de faire une émission avec Jean-Claude Van den Heinden. Jean-Claude habite en Belgique, mais il vient assez souvent en France et on a profité d'un de ses séjours en France pour faire cette émission. Mais pour que nos auditeurs se situent bien, j'ai parlé de Van den Heinden, mais par contre, il faudrait que vous nous disiez exactement comment ça se prononce. J'ai peur de faire une bêtise.
Mais jusqu'ici, vous l'avez tous les deux très bien prononcé, donc c'est Van den Heinden, tout simplement. C'est un nom flamand. Alors évidemment, en France, parfois j'ai entendu Van den Heinden, par exemple. En Allemagne, j'ai entendu Van den Heinden. Donc voilà, il y a une prononciation parfois en fonction de la situation géographique. Et je vous passe le chinois ou le japonais, bien sûr.
Alors ça s'écrit V-A-N-D-E-N, plus loin, oui. E-Y-N-D-E-N. Voilà, oui. Qui est clair. Alors Jean-Claude, vous avez une discographie très riche et qui vient de s'enrichir encore d'un nouveau CD avec la sonate de Liszt, la fameuse sonate en si mineur, et puis la fantaisie opus 17 de Schumann. Alors on va y revenir bien sûr, mais j'aimerais qu'on parle un petit peu de vos débuts et puis de votre prix en 1964 au concours Reine-Élisabeth de Belgique, alors que vous n'aviez que 16 ans, hein, vraiment c'est extraordinaire. Et donc comment vous avez été formé pour en arriver là et par qui ?
Alors, j'ai commencé très tôt, à l'âge de 5 ans à peu près, à être, on ne peut pas dire formé, mais enfin, c'est mon père qui a senti à la fois mon goût pour la musique, qui m'a pris sur ses genoux. Il y avait un piano à la maison. Mon père était un pianiste qui a pratiqué à la fois le classique et la musique de jazz. Et puis, il a vu effectivement ma fascination. D'abord pour le meuble. C'est vrai qu'un piano à queue dans une maison, ça
c'est beau,
remarquable.
Hein,
c'est beau, c'est magnifique. Et alors, la fascination du son. C'est-à-dire que je me mettais en dessous du piano pour entendre cette qualité.
Sous la caisse ?
Sous la caisse, oui, sous la table. Oui.
Avec toutes les vibrations.
Oui, oui. Et là, bon, je crois que c'est là que j'ai attrapé le virus, pour utiliser un mot un petit peu à la mode, de la musique. Et il m'a mis sur ses genoux. Il a vu que très tôt, j'avais une très, très bonne oreille. C'est-à-dire que je retenais facilement les sons, je pouvais les reconnaître, même des accords de 2-3 sons dès le plus jeune âge. J'ai été à l'Académie de musique. Et à partir de ce moment-là, les choses ont été extrêmement rapides. Je suis allé très tôt au conservatoire. J'avais, je crois, 11 ans à l'époque. Et puis, quelques années plus tard, à 16 ans, effectivement, j'étais lauréat du concours, après être aussi passé par la chapelle musicale Reine-Élisabeth. Et là, j'ai été formé par un grand maître, Eduardo del Pueyo, qui a été un grand maître espagnol, originaire de Saragosse, proche de la reine Élisabeth, puisqu'il a participé à l'élaboration du concours, du règlement du concours, et il a même, je crois, fait de la musique de chambre avec Pablo Casals et la reine Élisabeth à une certaine époque. Donc voilà, les choses ont été très vite, et puis après, bien sûr, il y a eu les concerts et le développement de la carrière.
J'imagine.
Oui.
Alors, on va faire connaissance avec vous, et je vous propose d'écouter pour ça un extrait d'un disque que vous avez entièrement consacré à Franz Schubert, avec une superbe version d'ailleurs de la dernière sonate, et puis les impromptus de l'opus 90, et je vous propose le deuxième de ces impromptus.
Thank you.
Jean-Claude Van den Einden, notre invité aujourd'hui dans Tous Mélomanes, qui interprétait ce deuxième impromptu de l'opus 90, si je ne me trompe pas. On va le dire à la Belge aujourd'hui. Hein. Après tout, notre invité est belge, donc il n'y a pas de raison qu'on ne s'adapte pas. Donc, le deuxième impromptu de l'opus 90 de Franz Schubert. Jean-Claude Van den Einden, j'avais envie de vous poser une petite question avant de vous parler de vos compositeurs préférés. Moi, j'aime beaucoup la sonorité du piano qu'on vient d'entendre. Vous avez une marque de piano préférée?
Je dois avouer que je suis toujours fidèle à Steinway. J'ai été un petit peu partout. J'ai essayé Bösendorfer, Yamaha, bien sûr.
Vous préférez la brillance du Steinway?
Je pense que c'est surtout l'équilibre qu'il y a entre la richesse des basses et le médium et l'aigu. Et que je ne retrouve pas toujours. Par exemple, chez Bösendorfer, on a des basses qui sont magnifiques, mais sont un peu déséquilibrées par rapport à l'aigu. Yamaha, c'est vrai, de temps en temps, les grands Yamaha sont aussi de très très bonne qualité. Je parlais d'un récital que Richter a fait à la fin de sa vie à Bruxelles.
Et le grand pianiste Richter.
Le grand pianiste Vyacheslav Richter. Et il venait, le piano venait de Hambourg, un Yamaha qui venait spécialement pour son concert. Donc, à la fin de sa vie, il était fidèle à Yamaha.
D'accord.
J'ai essayé aussi Fazioli, par exemple, qui sont de magnifiques pianos, mais assez inégaux parfois dans la qualité des instruments que l'on rencontre.
Donc vous aimez les Steinway. Et alors, vous aimez en tant que compositeur, quels sont vos compositeurs de prédilection? On a entendu Schubert, c'en est certainement un, mais il y en a probablement d'autres.
Il y en a d'autres, et je commencerai par celui pour lequel j'avais une prédilection dès l'âge de 9-10 ans. Et c'est un compositeur français, c'est Claude Debussy, pour lequel, je ne sais pas pourquoi, j'ai immédiatement, dès cet âge-là, senti une affinité. Peut-être parce que j'aime beaucoup que le piano soit un peu pictural et qu'il y ait une recherche au niveau de la couleur impressionniste, oui. Par après, d'ailleurs, je me suis aussi tourné vers Maurice Ravel, pour lequel j'ai vraiment une très très grande tendresse. Mais je n'ai pas un compositeur de prédilection. Schubert, c'est relativement récent. J'ai eu des périodes, je dirais, Beethoven, Mozart aussi, une période classique. J'ai beaucoup d'affinité aussi avec Johannes Brahms, parce que je trouve que c'est une musique d'une très très grande profondeur. J'ai beaucoup joué les derniers opus de Brahms. Donc vous voyez, il y a plusieurs...
Vous citez beaucoup de compositeurs romantiques, hein, 19e, début 20e, comme Debussy.
Oui,
et
oui.
Il y avait des grands pianistes au 19e, comme Chopin ou comme Schumann aussi, ou Liszt.
Oui.
Est-ce que ça fait partie de vos compositeurs préférés aussi?
Ben oui, je ne vais pas dire préférés, mais à un certain moment, mon maître, justement, Eduardo Del Pollo, a choisi un certain nombre de programmes pour préparer le concours Anne-Elisabeth. Et ben, le hasard veut qu'en finale du concours Anne-Elisabeth, ça remonte tout de même à 1964, j'ai joué le premier concerto de Liszt comme concerto et les études symphoniques de Schumann. Donc voilà, donc j'ai pratiqué effectivement ces deux grands compositeurs romantiques dès le plus jeune âge.
Et alors là, justement, on va passer à Schumann, oui. Parce que votre dernier disque, il y a la fantaisie de Schumann, qui est vraiment une œuvre extraordinaire.
Oui.
Alors, on va en entendre qu'un extrait, parce que c'est une œuvre qui est très longue, qui fait, je ne sais plus, 25 minutes ou à peu près.
Oui.
Donc on écoute un extrait de cette fantaisie, opus 17, de Schumann.
Thank you.
Notre invité aujourd'hui dans Tous Mélomanes est le pianiste que vous venez d'entendre, Jean-Claude Van den Heijden, le plus grand pianiste belge, même s'il n'oserait pas le dire lui-même, j'en suis certain. C'était un extrait de la fantaisie opus 17 de Robert Schumann. Alors Jacques Nouvier, nous continuons cette entrevue et nous allons parler maintenant peut-être de la musique de chambre.
Oui, parce que vous êtes un chambriste tout à fait réputé, mais finalement, qu'est-ce qu'elle vous apporte à vous, la musique de chambre ?
Alors, ce qu'elle m'a apporté, principalement, c'est le dialogue. C'est-à-dire que quand on joue un récital, bien sûr, on est seul sur scène, on est face à soi-même et on est entièrement libre. Par contre, en musique de chambre, lorsqu'on joue avec violon, violoncelle ou avec un quatuor, on est obligé d'à la fois s'exprimer, mais surtout d'écouter ce que font les autres, puisque c'est le sens même de la musique de chambre. Donc, c'est cette écoute et ce dialogue qui m'ont plu particulièrement dans la musique de chambre.
Et vous avez des partenaires de prédilection ? Ou des instruments, oui, peut-être, plutôt de prédilection ?
Non, pas vraiment, parce que j'ai eu, évidemment, plus de 50 ans de carrière, pas mal de partenaires, notamment de beaucoup de musiciens français. J'ai travaillé avec Augustin Dumay, avec Gérard Cosset, avec Michel Strauss, notamment, avec qui je vais enregistrer bientôt l'intégrale des sonates de Beethoven pour violoncelle et piano et les variations. Et donc, je ne veux pas dire que j'ai des partenaires privilégiés. J'ai eu de nombreux partenaires. Avec certains, j'ai fait un bout de chemin, c'est-à-dire qu'on a fait des séries de concerts ou on a travaillé pendant quelques années. Mais je n'ai pas voulu non plus m'enfermer dans un partenaire ou un quatuor ou un trio. Je préférais avoir la possibilité de faire de la musique de chambre avec qui me semble, et au hasard des rencontres.
Voilà, alors je vous propose de rester avec Robert Schumann pour écouter un mouvement, le troisième mouvement, de la première sonate pour violon et piano de Schumann, donc qui est l'opus 105. Et là, votre partenaire, c'est Gérard Poulet au violon.
Thank you.
13 enlevé, la fin de cette sonate numéro 1 pour violon et piano, opus 105 de Robert Schumann, avec le violoniste Gérard Poulet, et au piano, notre invité de ce jour, dans Tous Mélomanes, Jean-Claude Van Den Heinden. Et tout ça, toutes les musiques qu'on vient d'entendre hein, depuis le début de cette émission, que ce soit Schubert tout à l'heure ou Schumann maintenant, c'est sur le label, un label que je ne connaissais pas, qui s'appelle le Palais des Dégustateurs, Jacques Nouvier.
Alors, vous avez enregistré... dans plusieurs labels, je pense à Sony, à Deutsche Grammophon, à Decca, à Fuga Libera, Richard Carr, etc. Et finalement, ces derniers temps, vous enregistrez sur ce label, le Palais des Dégustateurs. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce label ?
Eh bien, en fait, c'est un petit peu... on ne va pas dire le hasard, parce que je connais, c'est vrai, Gérard Poulet, depuis de nombreuses années, nous avons beaucoup joué ensemble... notamment au festival Pablo Casals. Et c'est lui qui m'a un jour dit, écoute, voilà, je suis en contact avec quelqu'un qui a apparemment une véritable vénération pour Gérard Poulet et qui voulait faire commencer un label et enregistrer. Et c'est comme ça que nous avons enregistré la sonate de Magnard, d'Albéric Magnard. Et c'est au fond Gérard Poulet qui m'a fait connaître Éric Rouillet. Et bien sûr, après, on a gardé le contact. Il y a eu plusieurs enregistrements. Et on a là affaire à quelqu'un qui est un véritable passionné de la musique et qui, évidemment, a jumelé en quelque sorte le goût pour les grands vins français et en même temps le goût pour la très bonne musique.
Oui, le palais est à comprendre à double sens, évidemment. Voilà. Alors, on va passer maintenant à une œuvre symphonique. Et une œuvre symphonique de César Franck. Alors, bon, Franck est souvent considéré à juste titre comme un compositeur français, puisqu'il a été naturalisé en 1870, mais il est né belge. Et donc, c'était tout à fait normal qu'aujourd'hui, on rende hommage à des compositeurs belges. Et donc, on va entendre le début des variations symphoniques de César Franck. En fait, ça s'appelle pas concerto pour piano, mais on peut de fait, enfin, je sais pas, vous me contredirez peut-être, mais on peut considérer que c'est un concerto pour piano.
Oui, je pense que ceci dit, Franck a écrit dans sa jeunesse hein, vrais concertos pour piano, mais dans le style ancien, là, du début du 19e siècle, avec beaucoup de virtuosité et très très peu d'orchestre. Ici, on sent quand même qu'il y a une partie d'orchestre. Alors, je crois qu'on peut considérer, étant donné la partie de piano qui est tout de même très concertante, que c'est véritablement un concerto.
On écoute le début.
Thank you.
C'était un enregistrement live en direct, un enregistrement privé hein, que vous ne trouverez pas dans le commerce de Jean-Claude Van Den Einden, notre invité aujourd'hui de ce jour dans Tous Mélomanes sur RCF. C'était les variations symphoniques de César Franck avec l'orchestre dirigé par Fabien Gabel.
Tous Mélomanes, RCF.
Et on poursuit cette émission musicale classique, hein, des mélomanes pour les mélomanes, avec notre invité belge, donc Jean-Claude Van Den Einden et Jacques Nouvier. On va s'intéresser maintenant aux compositeurs belges.
Mais oui, parce que la Belgique a donné au monde des grands compositeurs. On vient de parler de Franck, qui est né en Belgique. Mais moi, je voudrais aussi évoquer Guillaume Lequeux, qui est né en 1870 et qui est mort très très jeune. En 1894, donc à 24 ans, un compositeur qui a finalement produit assez peu d'œuvres, mais d'authentiques chefs-d'œuvre. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner quelques idées sur Guillaume Lequeux?
Alors oui, effectivement, hein, on regrette cette mort prématurée parce qu'on se dit qu'il aurait pu développer vraiment son talent de compositeur tout à fait exceptionnel. Donc il y a les œuvres les plus connues, il y a des œuvres d'orchestre. Il y a aussi la sonate pour violon et piano qui, je crois, avec la sonate de Franck, est une des plus célèbres sonates des compositeurs belges, qu'on couple d'ailleurs souvent sur les disques. Et puis, il y a le quatuor à clavier, qui est une œuvre inachevée, hein, il n'a pas pu terminer, il n'a fait que deux mouvements, que j'ai enregistrés récemment aussi. Et donc, on sent à la fois toute l'influence tout de même de Franck dans sa musique, mais en même temps, il y a une touche très particulière qui fait que, voilà, on se dit s'il avait pu développer son véritable génie d'écriture, on aurait certainement eu des choses magnifiques. Donc là, j'invite peut-être les mélomanes à rechercher. Il y a un coffret qui a été consacré à Guillaume Lequeux, où se trouvent notamment le quatuor, la sonate, mais aussi d'autres œuvres orchestral. Il y a même des œuvres qu'on n'a pas retrouvées. Il y a des pièces pour piano qui s'appellent, tenez-vous bien, des pièces égoïstes. Ça s'appelle pièces égoïstes.
On pourrait penser que c'est du Satie, mais non.
Non, ce n'est pas du Satie du tout. Et il l'a mis vraiment en exergue pour moi seul.
Eh bien, je vous propose d'écouter maintenant un extrait de la sonate de Lequeux qui date de 1893, donc un an tout juste avant la mort du compositeur. Thank you.
Peut-être découvrez-vous comme moi cette sonate pour violon et piano d'un certain Guillaume Lequeux, qui fut un jeune compositeur belge disparu à l'âge de 24 ans à la fin du 19e siècle. Vraiment, c'est très très joli cette musique piano-violon avec le violoniste qui vous accompagnait, Jean-Claude van den Heinden, c'était Philippe Hirschhorn.
Oui, un grand ami qui malheureusement est parti trop tôt, comme on dit dans ce cas-là, il est mort d'un cancer à l'âge de 50 ans. C'était un violoniste d'exception. Il a gagné le concours Reine-Élisabeth en 1967 avec le premier concerto de Paganini.
Donc vous avez gagné ce concours de la Reine-Élisabeth.
Oui, moi je ne l'ai pas gagné, j'ai été lauréat, j'étais troisième prix. Mais lui,
il faut rappeler que vous aviez 16 ans hein, quand même, donc vous êtes toujours le plus jeune.
Et donc on a beaucoup joué ensemble, on a fait beaucoup de concerts. Voilà justement un partenaire avec lequel j'ai fait vraiment un grand bout de chemin parce qu'il s'est installé en Belgique, il est retourné en Union soviétique, et puis il est allé en Israël, et puis il est venu en Belgique. Et là, nous nous sommes rencontrés, nous avons vraiment joué beaucoup ensemble pendant plusieurs années. Et vraiment, c'est un des violonistes les plus exceptionnels que j'ai eu l'occasion de côtoyer. Nous étions tellement différents. Moi, je suis une nature un peu prudente, posée. J'aime bien que les choses soient organisées. Et lui, c'est tout le contraire. C'était une fantaisie, donc c'était passionnant de faire des concerts et on se complétait bien l'un l'autre.
Alors Jacques Nouvier, la transition est toute trouvée puisque vous souhaitiez parler maintenant du concours Reine-Élisabeth. Alors on va préciser pour les auditeurs, le concours Reine-Élisabeth, c'est un concours en Belgique et on parle de la Reine-Élisabeth de Belgique et non pas de la Reine-Élisabeth d'Angleterre. Voilà. Reine-Élisabeth de Belgique qui fut l'épouse, je crois, si je ne me trompe pas, d'Albert Ier.
Oui, exactement.
Et alors, ce concours, donc après avoir eu ce prix dont on a parlé, vous avez été membre du jury. Alors, on m'a dit que le fonctionnement du jury du concours Reine-Élisabeth était un peu spécial. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus?
Mais je ne sais pas ce que les gens veulent dire avec spécial. Il est reconnu comme l'un des concours peut-être les plus sérieux, les plus disciplinés au niveau notamment des votes, des systèmes de vote, etc. Et je crois qu'il est spécial parce qu'effectivement, il est assez long, il dure pendant un mois. Et la particularité, c'est que les jeunes lauréats doivent travailler un concerto en une semaine, un concerto contemporain écrit pour le concours, et ils doivent le préparer en une semaine. C'est la particularité de ce concours. Mais je crois que cette particularité, si mes souvenirs sont bons, existe aussi au concours de Montréal, au Canada. Et donc, pour le reste, je pense que ce qui fait la force de ce concours, c'est vrai que le palmarès, quand on le voit, il est assez impressionnant, puisque les deux premiers concours, ce n'était rien d'autre que David Oistrakh et Émile Guilels, qui ont été lauréats en 1937 et 1938, à l'époque d'ailleurs où le concours s'appelait encore concours Eugène Isaïe. Et la particularité, c'est qu'il n'y a pas de délibération, en fait. C'est on donne les cotes en toute sincérité, et il n'y a pas de délibération. Parce que c'est vrai qu'ayant assisté à des délibérations de concours, je peux vous dire que quand deux musiciens délibèrent ensemble, c'est déjà une catastrophe. Mais quand il y en a 10 ou 12, alors on passe toute la nuit à se mettre d'accord. C'est très curieux d'ailleurs. Ce serait intéressant de savoir comment un membre du jury juge une prestation.
Donc ça marche comment? Vous mettez une note?
Oui,
note sur 20 ou sur...
Voilà, sur 100. On reçoit un papier. Chacun doit, de manière totalement secrète, donner une note. Et c'est le calcul de ces notes.
Et est-ce que c'est comme aux Jeux Olympiques, on enlève la meilleure note et la moins bonne ou...
C'est un peu plus subtil
que
ça. Parce que, en fait, je crois qu'à un moment donné, au niveau du concours, ça existait, mais on trouvait que ça manquait de justesse. Parce que supprimer une note de membre du jury, le résultat n'est plus tout à fait juste. Donc, il y a une pondération qui fait que lorsque des cotes sont trop élevées ou trop basses, avec un pourcentage, je crois, de l'ordre de 10 ou 15% par rapport à la moyenne, ces cotes sont ramenées simplement à 10 ou 15% de la moyenne pour éviter, les gens qui favorisent ou défavorisent tel ou tel lauréat.
Et alors ce concours, on a parlé du violon, on a parlé du piano, mais le violoncelle a été introduit, je crois, en 2017. Oui. Et puis il y a le chant aussi.
Il y a le chant, oui.
Voilà.
Qui remonte un peu plus longtemps, hein, depuis plus longtemps. En fait, le concours de chant a, en quelque sorte, entre guillemets, remplacé un concours de composition qui existait, mais qui n'avait pas la même aura, qui n'avait pas le même succès que les concours d'instruments.
Et alors, on va passer bien sûr à de la musique, mais je voulais évoquer un enregistrement tout à fait remarquable que vous avez fait, qui est l'intégrale Ravel. Alors, dans cette intégrale Ravel, il y a vraiment toute la musique de piano et des choses qu'on entend des fois très rarement, et en particulier une œuvre de jeunesse qui s'appelle la Sérénade grotesque. Quelques mots peut-être sur cette œuvre.
Oui, ben je l'ai mise évidemment dans cette intégrale parce que je trouve qu'il fallait mettre. Je crois qu'il existe même des intégrales sans cette œuvre-là.
Oui, tout à fait.
Mais je trouvais qu'il fallait aller jusqu'au bout. Je crois que d'ailleurs aussi dans d'autres intégrales, il n'y a pas la transcription de la valse aussi que j'ai été, je crois, un des tout premiers à ressortir en 75 quand j'ai fait la première fois l'intégrale en public. Et Ravel, oui, je me suis aperçu en lisant beaucoup de biographies de Maurice Ravel qu'avec un compositeur, quand on a des affinités, c'est bien sûr sur le plan artistique et musical, mais même parfois sur le plan du caractère. Et donc je me suis aperçu que, je dis, mais ça, ce qui est dit là, mais ça me ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau. Et donc je pense que c'est cette affinité profonde avec Ravel qui m'a poussé à faire l'intégrale.
Alors on écoute cette Sérénade grotesque, qui est une œuvre de jeunesse. Ravel avait moins de 20 ans quand il l'a composée. Thank you.
La sérénade grotesque de Maurice Ravel, interprétée par notre invité de Tous Mélomanes sur RCF, Jean-Claude Van den Heinden, le plus grand pianiste belge. Jean-Claude Van den Heinden, quand on est musicien, concertiste, est-ce que c'est obligé qu'on soit aussi professeur? Est-ce qu'on se doit de transmettre son savoir?
Je dois dire que je considère qu'effectivement c'est un devoir. Quand on a eu la chance peut-être d'avoir un don très jeune, qu'on a pu le développer, qu'on a pu développer un métier et des connaissances, je pense que c'est un devoir de le transmettre. Parce que sinon on se dit, c'est un peu stérile quand même hein, de faire une carrière et d'avoir reçu ce don. C'est pas seulement pour la musique d'ailleurs, je crois pour l'ensemble de certaines disciplines, il y a un moment où il faut transmettre la connaissance et le savoir.
Donc vous enseignez aussi à de nombreux élèves ?
Oui. Maintenant, je suis retraité du conservatoire de Bruxelles, mais j'enseigne encore à la chapelle musicale Reine-Élisabeth. Et donc, j'ai eu beaucoup d'élèves durant cette carrière.
Et est-ce qu'on vous appelle professeur ou est-ce qu'on vous appelle maître ?
Ah, ça c'est une bonne question quand je vais répondre comme un homme politique.
Sans langue de bois, s'il vous plaît.
Non, sans langue de bois. En fait, le professeur, c'est quelqu'un qui enseigne les connaissances intellectuelles, on va dire. Hein. Donc c'est verbal et c'est important. Je veux dire, moi j'ai eu des professeurs à l'école primaire, etc., dont je me souviens, et également à l'Académie de musique. Mais on peut dire que la relation entre les élèves et le professeur à ce moment-là est un petit peu extérieure et un peu superficielle. Par après, j'ai rencontré donc mon maître, Édouard Audel-Pueyo, au conservatoire. Et là, en fait, à partir de ce moment-là, un maître transforme en quelque sorte l'élève à plusieurs points de vue, au point de vue psychique, au point de vue moral et même au point de vue spirituel. Qui fait qu'à ce moment-là, ce n'est plus un maître et un élève, mais un maître et un disciple. Et je crois que c'est fort important de pouvoir transmettre justement tout ce qu'il lui a accumulé au cours de ces années et de transmettre ce message aux jeunes générations. Parce qu'il y a bien sûr la musique, il y a bien sûr la technique de l'instrument et toute la pensée artistique, mais il y a surtout, il a eu sur moi en tout cas une influence morale très très forte en tant que personne, en tant qu'être pensant et en tant qu'être en recherche spirituelle.
Alors toutes ces qualités que vous avez en tant que pédagogue, que virtuose, etc., ont amené le roi Philippe à vous anoblir. Oui. Alors, est-ce que c'est comme en Angleterre où on dit sœur ou dame pour les dames, ou est-ce que finalement c'est simplement un mot sur la carte de visite ?
Non, c'est plus qu'un mot sur la carte de visite. Évidemment, c'est vrai que c'est une reconnaissance. Et c'est une reconnaissance qui fait plaisir, on ne s'en cache pas. C'est tout de même un petit peu un couronnement par rapport à une carrière, par rapport à la diffusion aussi de la musique par un Belge à travers le monde. Mais on n'a pas de nom particulier. Il y en a qui, avec un certain humour, m'appellent Messire, puisque en principe, j'ai le titre de chevalier, donc on m'appelle le Messire. Ça me fait toujours rire parce que je dis, vous savez, je ne suis pas venu avec mon cheval ni mon armure. Donc c'est plutôt un sujet qui fait sourire. Mais plus sérieusement, je crois vraiment que c'est une reconnaissance, un peu au fond comme en France, la Légion d'honneur. C'est tout de même une reconnaissance de qualité, une reconnaissance d'avoir apporté quelque chose d'important au pays.
Alors, on va maintenant revenir à la musique et en particulier à la sonate de Liszt, puisque votre dernier disque lui est consacré. Alors, finalement, cette sonate de Liszt, est-ce qu'on peut dire qu'elle a ouvert un peu les portes vers l'avenir, vers un avenir, je sais pas, où il y a Berg, il y a des tas d'autres compositeurs?
Mais je crois que plusieurs compositeurs ont gardé des attaches avec les périodes qui ont précédé. Puisque finalement, le titre de sonate est tout de même un titre qui avait déjà été, bien sûr, utilisé largement auparavant. Et je n'ose pas dire que c'est une œuvre vraiment d'avant-garde. Je crois qu'il y a des œuvres de Liszt, notamment ses dernières œuvres, hein, Bagatelle sans tonalité ou des
Nuages
choses
gris,
comme ça.
Etc.
Voilà, Nuages gris, qui sont beaucoup plus avant-gardistes que la sonate, qui a quand même une forme en plus ou moins quatre mouvements, un début, premier mouvement, un mouvement lent, une espèce de scherzo, et puis un retour, une réexposition. Mais c'est vrai que la forme en elle-même, on peut dire qu'il n'a pas appliqué la forme de la sonate telle que l'ont appliquée Beethoven et Brahms aussi. Donc, je crois que ce qui en fait son originalité, c'est évidemment, et c'est vrai pour toute la musique de Liszt, à mon avis, le génie mélodique et le génie de pouvoir créer des atmosphères éthérées à certains moments qui vont très très loin dans cette inspiration poétique et romantique.
Et donc on va écouter un extrait de cette sonate de Liszt, un extrait parce que la sonate dure plus d'une demi-heure, donc ce qui serait un petit peu long aujourd'hui.
Un extrait de la sonate en si mineur de Franz Liszt, interprété par notre invité du jour, Jean-Claude Van den Heinden, grand pianiste belge. Et cette émission touche malheureusement déjà à sa fin. Merci pour cette belle rencontre, Jean-Claude et Jacques. Merci de nous avoir fait découvrir ce pianiste belge, Jean-Claude Van den Heinden.
Oui, et en fait, on aurait pu écouter encore bien d'autres disques. Il y a un disque superbe, par exemple, Manière Franck. Il y a un disque très beau aussi de Joseph Jongen, qui est un autre compositeur belge, mais peut-être qu'une autre fois.
Ah, il faudra revenir.
Voilà.
Avec joie. Avec
ou bon alors, plaisir. C'est nous qui irons à Bruxelles.
Ah, pourquoi pas, bien sûr.
Ça serait toujours un plaisir à Bruxelles, où on écoute RCF, bien entendu.
Donc un grand merci et à bientôt.
Et à très bientôt, merci.
À bientôt.